Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale fantastique, un genre que nous aimons beaucoup. Dans l'équipe de Culture Prohibée, nous aborderons deux sorties estampillées ESC, à savoir Stillborn, qui est donc ressorti sous son titre Stillborn, mais qui est aussi connu sous le titre Au-delà de deux âmes, un film de Brandon Christensen. On parlera également de Traqué de Tommy Boulding. On évoquera aussi The Questor Tapes de Richard A. Collin, qui est paru chez Elephant Film. Nous aborderons également une sortie Rimini estampillée 80s. Je veux bien sûr parler de Nuit Noire, ou si vous préférez One Dark Night de Tom McLaughlin. Et on viendra plus près dans le temps pour évoquer Médusa d'Anita Rocha da Silveira, qui est sorti chez Wayna Peach. Et puis on fera un tour sur les plateformes, on ira du côté de Netflix pour découvrir Wendell et Wild, le dernier film en date d'Henri Selick, et la dernière série de Mike Flanagan, un de nos petits chouchous dans Culture Prohibée, cette nouvelle série qui s'appelle The Midnight Club. L'équipe de Culture Prohibée remercie Julia Bélanger, Sandrine Hiver, Victor Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Une émission réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, une revue que vous pouvez trouver sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com ou commander auprès des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Pour causer fantastique, je suis entouré de mes deux plus fantastiques chroniqueurs, évidemment, à savoir Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Autre fantastique chroniqueur, Thomas Roland, évidemment, dit le loup-garou picard, créateur d'À l'écoute du cinéma, diffusé sur RCA, et qui chaque nuit, de pleine lune, rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Salut Thomas.
Salut GG, salut Damien, et bien évidemment, bonjour à toutes.
Les amis, je vais débuter cette émission par un film qui s'appelle Stillborn, Au-delà de deux âmes, un film canadien de 2017 qui sort en ce début d'année 2023 chez ESC, qui est un film qui jouit d'une certaine réputation tout de même, à tel point d'ailleurs que Brandon Christensen, le réalisateur, et Colin Minihan, avec qui ils travaillent sur Stillborn, hein, puisqu'ils ont écrit ensemble le film, sont les deux personnes chargées de rebooter, comme on dit aujourd'hui, la saga Urban Legend. Fatalement, je me suis intéressé à ce film, puisque vous savez bien, puisque vous écoutez régulièrement cette émission, que Urban Legend, dans l'émission, on aime bien, et qu'en plus, on aime bien le 2, surtout, voilà, dont on vous a dit tout le plus grand bien. Et donc, on se dit, bon, ben voilà, un petit reboot d'Urban Legend. Après tout, pourquoi pas, puisque visiblement les scénaristes américains aujourd'hui n'ont plus d'idées originales, ils font des reboots sur reboots, mais pourquoi pas après tout. Donc je me suis dit, de quoi sont capables ces deux loustiques? Qu'est-ce qui fait que leur film a tapé dans l'œil des grands studios? Film d'ailleurs qui devrait connaître une suite, hein, Stillborn, d'après les informations qui circulent sur les internets. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Marie. Marie qui est campée par Christy Burke. Et elle va donner naissance à des jumeaux, mais il y en a un qui va mourir, en fait, sur les deux. Et en s'occupant de son enfant qui a survécu, donc Adam, Marie, Adam, où vont-ils chercher tout ça? Elle soupçonne que quelque chose, qu'une entité surnaturelle, en fait, la choisit et veut enlever son fils. Alors, comment dire, Jack, son mari, lui, il se réfugie dans le boulot, hein, c'est un accro au boulot, il bosse énormément. Elle est quand même, elle vit dans cette maison. Alors, c'est un peu glauque parce que, comme ils ont été un peu pris au dépourvu, ils ont acheté une grande maison pour accueillir les deux enfants. Il reste toujours le mobilier du deuxième enfant qui est mort. Donc, quand il y a le bébé qui est vivant, qui dort, elle le berce à côté du berceau du bébé qui n'est pas là, du coup, hein, du berceau vide. Voilà. Et évidemment, toute cette ambiance va déboucher sur une dépression de Marie, hein. C'est ce qu'on appelle une dépression postpartum, voilà, qu'elle va vivre, et elle va se mettre à entendre des voix sur le babyphone, elle va se mettre à avoir des hallucinations, il y a même des apparitions plutôt bien amenées d'ailleurs, de petites apparitions inquiétantes d'un personnage monstrueux qui serait là, et puis petit à petit elle va sombrer dans la folie, et elle va même devenir jalouse d'une voisine qui est une sorte de blonde américaine parfaite, c'est-à-dire la parfaite desperate housewife, comme on dit, avec comment dire, pas un gramme de maquillage mal placé, ni un kilo en trop d'ailleurs, voilà, la fille qui est un peu la caricature de la femme parfaite, et elle va avoir des comportements qui vont apparaître pour son entourage comme de plus en plus dangereux pour le bébé. Bon, au fur et à mesure du film, elle va même être amenée à consulter un psychiatre qui est incarné par Michael Ironside. Alors, Michael Ironside en psychiatre, voilà, alors c'est plutôt sympa de voir une apparition de Michael Ironside. Bon, après, c'est des réalisateurs canadiens, ils se rappellent qu'Ironside, c'est Scanners, hein, de Cronenberg, hein, qui révèle un peu, quoi, quand même. Mais bon, un psy incarné par Michael Ironside, on se doute bien qu'il y a un truc qui cloche, quoi, quand même, voilà. Bon. Malheureusement, la copie présentée est superbe en 1080p avec vraiment un son d'enfer. Il faut voir la VO, le son est d'enfer. L'ambiance est bien rendue avec des moments de flip, avec un gros travail sur le son et tout. Bon, malheureusement, la mise en scène est désespérément plate, je trouve. C'est un film qui jamais ne me prend, en fait, et je suis plutôt en spectateur de l'interprétation de Christy Burke que je trouve très bien et très crédible en femme qui sombre dans la folie, mais la fin est un peu quand même absurde, quoi, faut dire ce qui est, et surtout on voit tout venir, quoi, c'est-à-dire que c'est une histoire qu'on a déjà vue plein de fois. Donc, ils n'apportent pas le petit truc en plus, la petite dose en plus. Donc, ma curiosité est un peu déçue. C'est un film assez carré. On a vu des films bien pires que ça. C'est un film assez bien troussé, mais c'est un film qui ne m'emporte pas. C'est un film qui me laisse de glace pour dire les choses. Alors, j'espère que sur Urban Legend, ils vont nous pondre quelque chose d'intéressant. Mais je reste quand même, du coup, assez sceptique sur ce que va donner Urban Legend, prise en main par ces deux loustiques, donc Brandon Christensen et Colin Meaghan. Mais bon, on va leur laisser une chance, on verra bien. En attendant, ce film-là, donc, si vous voulez vous faire une idée, c'est Stillborn, Au-delà de deux âmes. Et c'est disponible chez ESC. Alors, toujours chez ESC, un autre film, alors là, qui m'a plus plu, en fait, je trouve que c'est la bonne petite série B du samedi soir. En plus, c'est un film de chasse à l'homme. Moi, j'aime bien les films de chasse à l'homme. Il y a des gens qui aiment bien les comédies musicales, mais moi, j'aime bien les films de chasse à l'homme. Voilà. Hein.
Spéciste.
Thomas, toujours le mot pour rire.
Wow. I wonder who lives here.
You
you sure this gaff's empty?
Bingo.
Hello.
Oh, what's going on?
Last night, you made the unfortunate mistake of breaking into my ancestral home. Don't worry, this is not an execution. Where's the sport in that? Good luck.
Why did they let us go? Why did they wish us luck?
What's that?
It's a fox hunt.
So what are they hunting?
Run!
People are gonna find out about this.
About what?
What's the train?
Donc ça raconte quoi ce film? Ce film avec Samantha Bond hein, qui est très bien en vieille noble comme ça, une sorte de noblesse arriérée britannique qui invite ses amis, tous des grands, voilà, de l'aristocratie, tous issus d'une aristocratie, tous un peu dégénérés, surtout un qui vient avec son fils, là, qui est complètement dégénéré, et qui traque bah, du pauvre, quoi, le lumpen prolétariat, qui le week-end font la chasse à courre, mais qui traque des pauvres. Et alors là, pas de bol, qui est venu se jeter dans la gueule du loup? Eh bien, un groupe de jeunes femmes et hommes, deux noirs, un blanc, une blanche, ce sont des as de la cambriole. Voilà. Et dans la bande, il y a un esprit supérieur qui sent que lui, il est allé au bout de tous les coups qu'ils allaient faire et qu'il fallait qu'il s'arrête là. Voilà, il se dit, c'est bon, là, on a fait tous les coups qu'on devait faire. Là, c'est bon, nous, on a réuni assez d'argent, on n'a plus besoin, parce que les deux noirs de la même famille, là, ils sont, c'est quand même, comment dire, deux jeunes qui sont des gamins qui ont juste le tort d'être nés dans une famille pauvre, mais c'est des gamins avec des forts potentiels qui travaillent bien à l'école et tout, et qui ont besoin d'argent pour pouvoir continuer à avancer dans la vie, à travailler à leurs études et tout ça et tout. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils se mettent à faire un peu de cambriole, du cambriolage de luxe, où en fait ils fournissent à un antiquaire véreux des pièces rares qui vont voler dans des maisons, voilà, parce que l'antiquaire leur donne l'adresse des maisons. Et là, il leur donne l'adresse de cette maison où ils vont, donc, ces deux jeunes avec un couple aussi, voilà, elle est assez... elle a un côté assez rentre-dedans et tout. Et lui, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, on sent que c'est un petit délinquant à la mort moelle-neu, voilà, il n'est pas bien méchant, mais... Et en fait... Le chef de la bande, il y va à contre-cœur. Lui, il ne voulait pas faire ce coup-là. Ils n'ont pas besoin de récolter plus d'argent, mais les autres le poussent à y aller. Eh bien, ils y vont. Du coup, voilà, ils y vont. Et ils se retrouvent pris dans cette chasse à l'homme, puisqu'ils sont coincés dans cette baraque, on ne peut pas plus dire baraque, dans ce manoir, avec tous ces gens qui vont les poursuivre. C'est un piège, en fait. Voilà. Et donc, on va suivre cette chasse à l'homme. Chasse à l'homme qui est, moi, je trouve, le... c'est pas le grand film, évidemment, mais c'est le bon petit film du samedi soir, avec ses petites références plutôt bien amenées. On a la petite référence hitchcockienne avec le héros le plus... celui qui nous paraît le plus fort et qui va disparaître le plus vite. Du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui va advenir pendant l'heure et quart qui reste de tous les protagonistes de ce film? Ils ne vont jamais réussir à s'en sortir. Et il y a une mise en scène plutôt efficace, plutôt carrée, qui, au final, moi, donne ce que j'appelle vraiment le bon petit film horrifique du samedi soir. J'ai passé un bon moment. Ça ne révolutionnera pas l'histoire du cinéma, mais... il y a un petit discours social, c'est plutôt bien mis en scène, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais voilà, Tommy Bolding fait le boulot, quoi. Moi, je trouve que c'est un bon petit film, bonne série B.
Oui, c'est carré, effectivement, c'est une petite série B avec le discours social de l'aristocratie l'aristocratie anglaise qui n'accepte pas l'idée qu'elle puisse disparaître, hein, et donc cette idée éventuellement de consanguinité, mais c'est pas très... Pas vraiment non plus. Hein. Enfin, c'est toute une famille, en fait. Hein. Il y a le frère, la sœur, le fils du frère, et puis un oncle. Donc ils sont quatre, ils sont une famille, ils ont un énorme manoir, le manoir est énorme, et donc ils vont poursuivre, c'est la chasse à cour, hein, la chasse à cour qui normalement n'est plus autorisée en Angleterre, hein, si j'en juge par les dialogues. Mais effectivement, c'est un petit film carré, très efficace, ce qu'il faut d'action, et plein de surprises quand même. Le film est assez surprenant sur pas mal de rebondissements, avec des petites, effectivement, des références, hein, notamment il y a un personnage qui veut faire sortir les héros d'une maison dans laquelle ils se sont enfermés, et il y a un plan, c'est exactement le plan de Kubrick dans Shining sur Jack Nicholson. Alors le personnage, il fait pareil, il joue avec ses doigts contre la porte, il fait exactement comme Jack Nicholson, et il parle des petits cochons qu'il veut faire sortir de la maison. C'est exactement, bon, c'est une grosse référence à Shining. C'est un film dans lequel les héros, ceux à qui on est censé s'identifier, hein, ce l'open prolétariat, portent des jogging. Bon, alors, moi je suis désolé, mais le jogging, c'est pas possible, hein. Dans ce cas-là, on se dit, finalement, l'aristocratie a raison, vive l'aristocratie, et finalement on se dit, espérons qu'ils vont gagner quand même, ces aristocrates.
Vous écoutez Culture Prohibée. Nous allons quitter ESC parce qu'on rappelle que les deux films que nous venons d'évoquer, donc Stillborn et Traqué, sont deux films disponibles chez ESC. Nous allons quitter ESC pour parler de The Questor Tapes. Mais qu'est-ce donc que The Questor Tapes ? The Questor Tapes est sorti chez Elephant Film, et The Questor Tapes, c'est pas un film de cinéma, en fait, c'est un pilote. Pilote pour une série qui n'a jamais existé, parce que le pilote n'a pas fonctionné. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Et c'est surtout pourquoi on en parle dans l'émission, parce que c'est un pilote qui est, comment dire, une création de Gene Roddenberry. Alors Gene Roddenberry, l'inventeur de...
Star Trek.
Eh oui, l'inventeur de Star Trek, donc ce mythique série. Et en fait, justement, ça a un rapport avec Star Trek, tout ça. C'est-à-dire que
à l'époque, Star Trek, ça marche pas. Ça marche pas fort. On est en 73, on lui dit qu'on va arrêter la série, en fait. Voilà. On dit qu'on va arrêter la série, ça fonctionne pas. Donc, faut que tu nous trouves autre chose. Mais comme la chaîne de télé a pas super, super confiance en lui, ils lui font un cadeau empoisonné. Et NBC lui propose le créneau du vendredi 22h30 pour lancer une nouvelle série, qui est aux États-Unis ce qu'on appelle le créneau de la mort. C'est-à-dire que toutes les séries qui ont un pilote qui passe le vendredi à 22h30 sur NBC n'ont jamais de suite, quasiment. Enfin, de très, 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 très rares exceptions. Voilà. The Questor Tapes ne va pas être l'exception. Hein. Ça va pas fonctionner. Et pourtant, le film brasse le téléfilm brasse des préoccupations qui sont toujours d'actualité, puisque ce qui est au centre, c'était aussi à la mode à l'époque, hein, mais ce qui est au centre de cette histoire, c'est l'intelligence artificielle. Alors, le film débute tout simplement, on a des scientifiques qui s'affrontent sur la manière ou pas de mettre en marche un certain Questor. Qu'est-ce que c'est que Questor ? Ben, c'est une sorte de grand androïde qui est donc géré par une intelligence artificielle. Alors, les effets spéciaux sont un peu datés, et justement, ça donne un look très particulier à ce Questor. Ça lui donne un look assez singulier de créature un peu hybride, comme ça, qui en fait est un être humain, joué par un acteur classique une fois qu'il a pris vie, quoi. Mais tant qu'il n'a pas pris vie, c'est un drôle de personnage tout rose, comme ça, une sorte de gigantesque Big Jim, pour ceux qui ont connu les poupées Big Jim, voilà, qui était l'équivalent pour garçon de Barbie, c'est Barbie en plus viril, quoi, voilà, où c'était pour faire la bagarre, et qui était une idée, ma foi, assez originale pour l'époque. Alors, au départ, il y a affrontement de scientifiques sur la manière de faire, parce que bon, bah, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire. Mais en gros, il y a un processus qui est initié par un scientifique que ne veulent pas appliquer d'autres scientifiques. Enfin bon, bref. Et l'un des deux héros, en fait, Mike Farrell, hein, qui joue Jerry, qui est Jerry Robinson, va insister pour qu'on procède d'une certaine manière afin d'animer Questor, de donner vie à cet androïde qui s'appelle Questor. Alors Questor qui est joué par Robert Foxworth. Et donc, Questor, il va finir par, prendre vie. Voilà. On va croire que l'expérience échoue, mais en fait, non. Et il va s'échapper, Questor, il va se réveiller, il va s'échapper. Et le gentil Jerry va le retrouver et ils vont faire une sorte de duo. Puisque Questor veut aller à la recherche d'informations bien particulières. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon je vais déflorer l'intrigue. Mais il est encore question, comme souvent chez Gene Roddenberry, d'extraterrestres et surtout de bienveillance envers l'humanité, de protection de l'humanité, qui est quelque chose qui revient très très souvent chez Roddenberry, qui est, on l'oublie toujours, hein, mais par exemple Star Trek, c'est l'ONU, hein, c'est inspiré par l'Organisation des Nations Unies, et la mission de Star Trek, c'est de promouvoir la paix, bon, même s'ils font la bagarre avec les Klingons, mais voilà. Il faut savoir que Questor, qui est joué par Robert Foxworth, devait être joué par Leonard Nimoy. Ça aurait été plus sympa, parce que Robert Foxworth, il est pas mauvais acteur, mais Nimoy, ça a une autre gueule, quoi, quand même, voilà. Mais la chaîne va décider que non, c'est comme ça, voilà. Ce sera Robert Foxworth qui va l'imposer. Et on peut dire quand même que la grande idée du film, c'est que plus l'intrigue progresse, plus Questor devient humain, plus Questor s'humanise, plus cette intelligence artificielle se rapproche d'un état d'être humain. Bon, alors à l'époque, c'était certainement quelque chose humain gentil en plus, humain sympa, ce qui n'est pas forcément un thème beaucoup développé à l'époque. Si on prend HAL 9000, enfin si on va chez Kubrick et tout, l'intelligence artificielle, elle était nocive pour l'homme. Voilà. Là, elle est positive, elle vient en aide à l'homme. Après, le rythme du téléfilm et la mise en scène sont quand même assez plats, je trouve. Hein. C'est pas ce qui m'a le plus passionné. Ce qui me passionne, c'est de voir les thèmes développés dans ce pilote, qui sont des thèmes qui sont toujours récurrents dans l'œuvre de Gene Roddenberry et qui, du coup, donnent un intérêt tout particulier. Puis le final, dans un décor assez particulier, assez singulier, et ma foi, plutôt sympathique, plutôt étonnant. Voilà, avec une révélation finale
quand même plutôt étonnante qu'on ne voit pas forcément venir. Mais avant, on va dire que ça aurait été quand même un peu longué parce que c'est pas, c'est un peu long. Il y a des, c'est un peu bavard et tout ça. Mais c'est pas sans qualité et ça repose beaucoup sur le duo d'acteurs. Et je trouve que Mike Farrell est plutôt chouette dans le rôle de Jerry, du scientifique Jerry Robinson. Voilà. Mais bon, malheureusement pour Gene Roddenberry, ce pilote ne donnera pas lieu à une suite. Et donc, on peut remercier Elephant Film de nous faire découvrir ce projet, cette série avortée qui, à ma connaissance, est complètement inédite en France. Voilà, donc The Questor Tapes, c'est disponible chez Elephant Film. Nous allons quitter Elephant Film pour une sortie de chez nos amis de Rimini. One Dark Night, alias Nuit Noire, de Tom McLaughlin. Eh oui, Tom McLaughlin, l'homme derrière Jason Mort-Vivant, sympathique Vendredi 13. Hein. Bon, il faut aimer les Vendredi 13, j'avoue, c'est un de mes péchés mignons, hein, la série des Vendredi 13. Voilà. De temps en temps, je me les refais tous sur un week-end, ça me fait bien plaisir. Voilà. Je sais, je suis un peu masochiste, mais c'est comme ça. Parce qu'il y en a quand même qui sont vraiment pas terribles. Hein. Le deuxième, par exemple, qui est assez ennuyeux, ou voilà. Mais c'est pas grave, ça me fait du bien, puis ça permet de relativiser. Des fois, quand on n'aime pas certains films, on se dit « Ah, mais il y avait eu ça avant !» Voilà. Mais bon, mais Jason le mort-vivant, en l'occurrence, c'est un des bons, hein, dans la série des Vendredi 13, c'est un bon Vendredi 13. Et là, on est en 83, Tom McLaughlin n'est pas encore super connu, hein. Enfin, il sera jamais super connu, mais enfin, il n'a pas encore fait son, il n'a pas encore participé à la série des Vendredi 13, et il va nous signer un film, ma foi, assez étonnant, j'ai envie de dire, qui est un. Le scénario est très 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 simple, hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'occultiste russe étrange, Karl Ramarevitch. Qui donc visiblement est à la tête d'une secte, de gens qui le suivent. Alors on va découvrir dans un immeuble tout plein de cadavres, tout plein de, enfin c'est assez glauque, des trucs plantés dans les murs, des fourchettes, des assiettes, et lui est mort, voilà. Et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, voilà, mais qu'est-ce qui a mené à ce massacre? Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il avait le pouvoir de télékinésie, de déplacer des objets à distance. Alors, il est enterré dans une crypte qui rappelle beaucoup celle de Fantasme, hein, de Don Coscarelli, avec ses tombes comme ça, un peu en étagère, si j'ose dire. Hein, voilà. Et il est enterré comme ça, un peu à la verticale horizontale, si j'ose m'exprimer ainsi. Et il y a une bande de jeunes, trois jeunes filles dans un lycée, et il y a une quatrième jeune fille qui est campée par Meg Tilly qui est toute jeune, Meg Tilly, la Meg Tilly de Psychose 2, de la fiancée de Chucky, voilà, notre héroïne, donc, est incarnée par une Meg Tilly toute jeune, hein, doit intégrer une sororité, alors très réduite, puisque c'est une sororité de trois jeunes femmes, qui est menée en fait par la grande blonde, ce qu'on appelle en gros Miss Lycée, hein, la plus belle fille du lycée, voilà, la jolie blonde du lycée. Elle veut intégrer cette sororité. D'ailleurs, on ne sait pas trop pourquoi elle veut l'intégrer, parce que sont plutôt antipathiques, ces filles, avec elle, et en particulier parce que comment dire, Meg Tilly, bah, sort désormais avec celui qui était le petit copain auparavant de la blonde qui dirige cette sororité, donc ça ajoute un peu du piment à l'histoire, enfin quoique. Voilà, donc comme rite d'initiation, elle doit passer une nuit dans cette crypte. Elle va se retrouver enfermée dans cette crypte et être confrontée évidemment à Karl Ramarevitch qui va ramener les morts à la vie, enfin pas vraiment d'ailleurs, qui va déplacer les cadavres. Alors que penser de ce film? Évidemment, c'est pas le film du siècle. Le film, par contre, pour moi, il a clairement, il est en trois parties, avec un milieu qui est très inintéressant, en fait. Mais un début et une fin que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'au début, c'est assez intriguant. Il y a tout un ballet de voitures de coroner très bien chorégraphié qui arrive comme ça, au ralenti, qui se gare, on entend en voix off qu'il y a eu un massacre, on découvre petit à petit par des plans en vue subjective qu'il y a eu ce massacre, et on entend la voix off, et c'est assez perturbant, c'est des scènes qui dénotent une véritable vision de metteur en scène, quelque chose de vraiment intéressant, voilà. Et après ces ballets, cette chorégraphie de voitures de coroner et de voitures de médecins légistes et de flics et compagnie, avec la foule qui se presse, en plus qui sonne, image qui sonne assez réaliste. On a, même si c'est surréaliste en fait, ce ballet de voitures là, voilà, cette idée de mise en scène, moi j'adore. Et puis après, on se retrouve avec ces lycéens là où on va s'ennuyer un peu quand même, faut le dire, pendant bien 40 minutes. Jusqu'à un final, alors là, par contre, que j'aime beaucoup. Alors, pendant 40 minutes, il ne se passe pas grand-chose. Cette fille, il y a ses amourettes avec son petit copain, là, qui est assez insipide, d'ailleurs, comme petit copain. Et puis, ses échanges avec cette confrérie de jeunes filles tout aussi insipides. Et puis, elle, évidemment, c'est la plus intelligente, c'est la plus mignonne, c'est Meg Tilly, quand même. Et puis, elle va se retrouver dans cette crypte, poursuite ce rite d'initiation, où elles ont prévu de venir l'effrayer, en fait, tout simplement. C'est un jeu adolescent, voilà, c'est un jeu un peu bête, comme on a tous pu le faire ou avoir envie de le faire quand on était des ados, voilà. Mais si, les gars, quand on s'amusait à faire tourner les tables, alors qu'on savait très bien qu'elles n'allaient pas tourner, mais bon, c'est comme ça, quoi. Vous avez jamais fait du spiritisme? Oh, vous savez pas ce que c'est que ça, vous amuser.
Moi, si, mais moi, les tables, elles tournaient.
Et voilà. Bon, mais qu'est-ce qui se passe dans ce studio? La table est en lévitation. Non, très sérieusement, voilà, jusqu'à ce qui devait s'annoncer comme une farce, et qui va virer à un quart d'heure très, très, très singulière, très étrange, avec ses morts-vivants au maquillage très efficace, bouffés par les vers, c'est très, très dégueulasse, mais qui vont pas se déplacer comme les morts-vivants habituellement dans les films de zombies auxquels on est habitué. Là, c'est très différent, puisqu'ils sont déplacés par la force télékinésique de cet occultiste russe. Donc ça va donner des images assez uniques, une ambiance assez putride. Alors évidemment, c'est un peu pompé aussi sur Fantasme de Don Coscarelli, hein, cette atmosphère un peu singulière. D'ailleurs, Tom McLaughlin l'avouer, parce qu'il aimait bien le Fantasme de Coscarelli. Et toute la dernière partie du film est pour moi presque du Fulci, du bis italien. Enfin, il y a un peu de ça dedans. C'est très, très étrange. Mais par contre, il y a un gros temps mort au milieu. Il y a vraiment un gros temps mort où il ne se passe rien du tout. C'est malheureusement le défaut du film. Mais pour ces 5 premières minutes et ces 15 dernières minutes, c'est vraiment un film qu'il faut voir parce que ça dénote quand même une vraie note d'intention de la part d'un réalisateur qui ne demandait qu'à faire des choses un peu plus étranges et singulières. Il aurait dû venir en Europe, Tom McLaughlin, il aurait pu peut-être donner libre cours à ses pulsions cinématographiques morbides et étranges.
Je suis d'accord avec toi, Jérôme. Le début et la fin portent vraiment quelque chose dans le film. L'introduction est magnifique, poétique, intrigante. Vraiment, la scène d'introduction nous lance dans le film durant les 30 prochaines minutes, même si ça ne se reproduit pas avant un long moment. Mais ce ballet de coronaires avec... En fait, c'est ça qui fonctionne, c'est que la seule chose qu'on a, c'est l'image des coronaires qui arrivent, vraiment en train de conduire, et la voix d'un officier et d'un commissaire qui discutent d'une scène. Le policier n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé au commissaire, et pour le commissaire, ça semble logique. Et au fur et à mesure qu'on avance, on arrive enfin sur la scène du crime, et on comprend pourquoi c'est compliqué, et il maîtrise vraiment son mystère... dans cette situation. Après, c'est vrai, on rentre dans l'histoire de la sororité qui est légèrement ennuyante, parce qu'on ne voit pas tout de suite le lien. Enfin, on le comprend assez vite. On s'attend à ce que ce soit des jeunes qui soient victimes des maléfices, de la magie, tout ça. Mais au départ, on ne comprend pas vraiment ce qu'ils font là. Surtout qu'il y a un personnage qui n'arrête pas de mâcher une brosse à dents. Je comprends pas le délire. C'est vraiment une question que je me suis posée. Ça m'a hanté durant tout le moment où je regardais, mais je comprends pas. Et à la fin, je vois ce que tu veux dire par le fait qu'on retrouve un esprit Fulci, c'est la façon dont les cadavres sont mis en avant et dont ils sont filmés. J'ai vu que la fin de base était différente que celle que j'ai vue, qui devait poser l'intrigue que ça allait se poursuivre et pas se finir sur la fin qu'on a eue, mais. Pour l'introduction et la conclusion, le film vaut le coup. Il faut accepter de souffrir un peu au milieu, mais il reste remarquable. D'ailleurs, les effets spéciaux qu'on a évoqués succinctement, il y en a très peu qui sont vraiment ratés. La plupart de ceux qui sont utilisés, je les trouve très bien. D'ailleurs, le moment où la sororité veut piéger la nouvelle recrue, elle commence à mettre en place des gags horrifiques. Et il y a une scène que j'aime beaucoup qui est... un personnage est déguisé et arrive en mode fantôme face à elle. Et le sketch de base, c'était juste... Elle arrive, elle lui fait peur en fantôme. Et là où ça devient intéressant, c'est que la caméra filme durant un long moment. Et au bout d'un moment, on se pose la question. Est-ce que c'est l'adolescente qui fait le gag, ou est-ce que les phénomènes paranormaux ont vraiment débuté? Et j'aime beaucoup du coup ce qui est réalisé dans les moments horrifiques dans ce film.
Scène qui est réussie, avec un détail que t'as pas ajouté, c'est qu'effectivement en plus il y a derrière sa complice qui elle-même a peur. Alors là du coup le spectateur se dit, mais est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce que c'est un zombie en fin de compte? Et ce qui est aussi intéressant en fait, c'est que le film s'ouvre par une chorégraphie, par un ballet, et se termine par un ballet. Puisque ces zombies, en fait, sont pas, ne se déplacent pas réellement, ils sont juste portés, déplacés par l'esprit de ce mage, de cet occultiste un peu étrange. Donc ça donne une vraie identité singulière à ce film qui est, on le répète, qui n'est pas le film du siècle, hein, qui s'appelle One Dark Night, donc, mais qui est quand même un film avec une ambiance très particulière, et pour ses première minute et sa dernière partie, c'est un film qui mérite d'être vu pour ceux qui aiment les bizarreries et les, comment dire, les films horrifiques singuliers un peu comme ça qu'on produit dans les années 80. Donc ça s'appelle Nuit Noire, One Dark Night, et c'est signé Tom McLaughlin et c'est disponible chez nos amis de Rimini.
Agora, nesse momento de fervura da nossa fé, eu vou convidar ao palco as nossas princesas. Michelle e as preciosas, vem meninas, vem!
Vous écoutez Culture Prohibée, spécial fantastique.
Jesus é meu amor. Jesus.
Sorti de la sororité de One Dark Night, Thomas, tu vas nous emmener vers une autre forme de sororité, bon, un peu plus agressive quand même, hein, dans le film d'Anita Rocha da Silveira sorti chez Wayna Peach qui s'appelle Médusa.
Oui, Médusa, c'est le deuxième long métrage de Anita Rocha da Silveira, hein, qui avait réalisé déjà un thriller qui s'appelait Matemé por favor, que je n'ai pas vu, que j'aimerais bien voir. Hein.
Qui est un thriller, enfin, qui est un film un peu bancal, c'est un film qui prend un peu les codes esthétiques du giallo et tout ça, mais qui raconte un truc un peu différent, mais par contre qui est intéressant dans le sens où il s'en prend aux évangélistes. Voilà.
Bah justement, là encore, elle s'en prend aux évangélistes une nouvelle fois, mais en s'inspirant du mythe de Méduse, hein, pour justement décrire une société obsédée par la pureté. Hein, on est dans le Brésil d'aujourd'hui, Mariana est une jeune femme de 21 ans qui vit dans le microcosme d'une communauté catholique où les hommes sont des caricatures de mâles virilistes et où les femmes se doivent d'être pieuses, pures et soumises à ces mêmes hommes. Alors qu'ils s'organisent en milice pour faire régner l'ordre moral, les femmes, la nuit, cachées derrière des masques blancs, pourchassent les pécheresses pour aller rosser les filmer en train de faire allégeance à Jésus. Seulement une nuit, au cours d'une de leurs chasses, une jeune femme taillade le visage de Mariana. Et cet événement va changer sa perception des choses, bien évidemment. Sinon, il n'y aura pas de film. Si, sur le plan esthétique, Médusa s'inscrit dans une tradition du cinéma fantastique, avec ses couleurs vives, ses néons clinquants et sa direction de la photographie partagée entre le vert et le rouge, ses décors pop et parfois volontairement outranciers, il peut faire penser aussi à une uchronie. La réalisatrice admet pourtant s'être inspirée de réalités qui secouent le Brésil actuel. Après avoir enquêté auprès de communautés religieuses réelles et actuelles, Anita Rocha da Silveira dénonce un monde obsédé par la pureté et les apparences, marquant alors un retour du puritanisme. La réalisatrice épingle les contradictions de ses discours, dénonce les théories complotistes, les abus réactionnaires de ses idéologies, de ses sociétés du contrôle. Impossible de ne pas penser, bien sûr, aux réseaux sociaux où l'image prévaut et qui sont également des lieux où s'effectuent lynchage et règlement de comptes. Le fantastique de Médusa apparaît surtout par sa filiation avec les films d'un certain Dario Argento, par son esthétique, et d'un certain John Carpenter, par sa musique électronique, mais aussi par des séquences oniriques et poétiques qui sollicitent le corps et sa mise en scène du corps, notamment celui de Mariana, dont la transformation s'effectue par une série de plans où elle est face caméra, comme si la caméra était un miroir qui lui renvoyait son moi réel. La jeune femme rencontre sa sensualité en abandonnant son obsession de la beauté grâce à cette cicatrice qui lui barre la joue et un travail qui l'oblige à voir le corps autrement, corps inerte, corps abîmé, corps vieillissant. Derrière la volonté de contrôler son corps, de paraître, se cachent les stigmates, les secrets de couple, le temps qui passe. Les moments d'abandon de Mariana sont l'occasion de belles séquences où les corps effectuent des ballets au rythme d'une excellente bande originale. Bon, il y a bien quelques passages didactiques, mais Medusa, c'est aussi être drôle, Anita Rocha da Silveira usant d'un humour féroce et d'ironie pour décrire ces communautés aseptisées et hypocrites. On est quand même loin des clichés et des dogmes, mais Medusa s'impose comme, il s'impose comme l'un des meilleurs films qui est sorti sur les écrans durant l'année 2022. Et il n'est malheureusement disponible qu'en DVD chez Wena Peach, alors que moi j'aurais bien voulu avoir un Blu-ray pour pouvoir découvrir le film dans des conditions beaucoup plus optimales.
Après ces quelques films sur support physique, parce que nous on préfère quand même les supports physiques, hein, à la culture prohibée, mais bon, on s'est quand même penché sur ce qui se passe dans l'actualité, enfin au moment où vous écouterez cette émission, ce sera un peu moins dans l'actualité évidemment, de Netflix, avec deux productions récentes. La dernière série de Mike Flanagan, The Midnight Club. Damien, tu vas pouvoir nous en dire plus. Et puis, tu vas également nous parler de du dernier film d'un réalisateur qu'on aime beaucoup, Henry Selick, un film d'animation qui s'appelle Wendell et Wild.
Je commençais par parler de Wendell et Wild de Henry Selick, qui est sorti en 2022 et qui m'a fait découvrir que Netflix avait une politique de pas plus de 6 films d'animation par an sur sa plateforme, ce qui explique pourquoi le film est sorti en 2022 et pas en 2021. Donc, l'histoire, c'est celle de Kat, une adolescente punk orpheline qui vient d'être transférée dans une pension catholique. Là-bas, elle se découvre des pouvoirs. Deux frères démons, Wendell et Wild, d'où le titre, lui demandent alors de les aider à rejoindre le monde des vivants. Mais ce que Kat souhaite obtenir en retour les propulse dans une aventure aussi étrange que comique. Une épopée fantastique qui défie les lois de la vie et de la mort. Alors, c'est le grand retour, peut-être pas grand retour, mais en tout cas, c'est le retour d'Henry Selick qui était absent depuis 13 ans, depuis Coraline. Et au casting, on y retrouve Keegan Michael Key et Jordan Peele, comme vous le savez, que j'aime énormément, qui au final reprennent un peu leur duo comique qu'ils faisaient dans les Key & Peele. Et Jordan Peele est co-scénariste de l'histoire. Alors, Kat est jouée par Lyric Cross, qui est très peu connue. Par contre, on a Angela Bassett, qui joue une nonne dans la série, dans le film, qui est connue notamment pour la série American Horror Story, ou son rôle de Ramona, reine du Wakanda, dans Black Panther. Alors, vu qu'on est sur du Henry Selick, on a les mêmes bases que d'habitude, c'est-à-dire qu'on a de l'animation en volume, en pâte à modeler, tout fait en stop motion. Les personnages sont très cool, les interactions sont vraiment sympas. Vu que c'est du Henry Selick, on a vraiment tous les personnages ont un caractère design vraiment génial. L'univers est foisonnant de formes et de couleurs. L'histoire est charmante, l'esthétique est extrêmement cool. Il y a un côté très moderne avec un mélange mi-jazz, mi-punk qui rend l'ensemble de l'univers très sympa. Je ne suis pas totalement charmé par le film, mais je suis extrêmement heureux de retrouver du Henry Selick. L'un des avantages, en même temps, défaut, je dirais que c'est justement le duo Key & Peele, parce qu'on retrouve un peu leur duo habituel, mais en version compte ce qui peut fonctionner des fois et d'autres fois ne fonctionne moins bien, mais à l'intérieur même du film. Malgré ça, il demeure drôle, les personnages sont sympas, l'univers est vraiment aux couleurs et il y a une dimension imprévisible à Wendell et Will qui rend le tout extrêmement sympa. Et mon autre petit coup de cœur, c'est pas vraiment mon coup de cœur, mais l'autre truc qui a attiré mon regard sur la plateforme, c'est justement The Midnight Club de Mike Flanagan, que j'aime énormément, dont on a longuement parlé ici, qui du coup, ici fait une adaptation des bouquins de Christopher Pike, qui s'appelait déjà The Midnight Club. Et l'histoire de la série se passe à Sacramento en 1994. On diagnostique à Ilonka un cancer de la thyroïde, quelques mois avant ses 18 ans. Elle a alors d'étranges visions d'horreur, et en phase terminale, elle décide d'intégrer le centre de soins palliatifs de Briefcliff, malgré les réticences de son père adoptif. Cet hospice est dirigé par un médecin plutôt étrange, le docteur Georgina Stanton, et peu après son arrivée, Ilonka découvre que sept autres pensionnaires du centre participent à ce qu'ils appellent le Midnight Club, c'est-à-dire le club de minuit. Ils se retrouvent dans la bibliothèque toutes les nuits, vers minuit, pour se raconter des histoires effrayantes malgré le couvre-feu en vigueur dans l'établissement. Au sein du club, une promesse est alors faite. Celui qui mourra le premier devra, s'il le peut, envoyer un signe aux autres. Alors, c'est un univers très macabre, vu que les personnages principaux sont tous destinés à mourir. Mac Flanagan, il est showrunner de la série, mais en vrai, il réalise que deux épisodes, et après, on voit vite qu'on perd sa patte. Ce qui est dommage, parce que c'est quand même le gars du coup qui avait fait la série The Haunting of Hill House, qui est la première saison des The Haunting qu'il avait fait. Il s'y connaît en adaptation, vu que c'était déjà l'adaptation d'un bouquin. Il a aussi fait beaucoup d'adaptations de Stephen King, dont Dr. Sleep avec Shining. Du coup, on sait qu'il est doué pour les adaptations. Et même si là, il ne fait pas du Stephen King, il fait du Christopher Pike. Les épisodes, ils font environ 50 minutes, hein, il y en a 11. Et ce que j'aime bien, c'est que... En fait, la série a un principe qu'on peut aimer ou détester, mais sur un épisode, la moitié de l'épisode va être dédiée à l'intrigue qui se passe à l'intérieur de son pensionnat avec les malades, et l'autre moitié va être dédiée à l'histoire qui va être racontée. Ce qui fait que l'histoire qui est racontée, ça lui laisse du temps, et ça permet, je ne vais pas parler d'histoire d'ailleurs, je vais parler de contes pour éviter qu'on s'y perd. Les contes qui sont développés, ça permet de développer les personnages à travers leurs sentiments, leur histoire perso, voire éventuellement de faire des flashbacks de là où ils viennent ou non, toujours avec ce petit côté fantasmé et imaginé. Et au fur et à mesure, ça crée un certain flou entre l'histoire que les personnages racontent et qui sont eux-mêmes. Personnellement, ça m'a beaucoup rappelé une série que je regardais quand j'étais petit qui s'appelle Fais-moi peur ou Are You Afraid of the Dark? Dans son titre original, qui est une série où en gros des jeunes gens se réunissent au milieu de la forêt et se racontent des histoires autour d'un feu en plein milieu de la nuit. Et en fait, la série a pas mal de cette ambiance. Au final, je la trouve inégale parce que je trouve que les contes sont beaucoup plus intéressants que la série elle-même. On ressent, comme je l'ai dit, un peu l'absence de Flanagan vraiment qui regarde par-dessus l'épaule pour suivre l'entièreté, mais la série se suit facilement. Et le gros défaut de la série, et je pense que ça joue énormément par rapport à ce qu'il a fait avant, c'est que quand la série se termine, on sent qu'il y a une suite qui est censée arriver. On sent que c'est fait pour être fait sur 2-3 saisons. Et le problème, c'est que Netflix, du coup, a annoncé en décembre qu'ils annulaient la série. Du coup, si vous voulez regarder cette série, il faut la regarder si vous êtes fan de Flanagan, même si sa présence est très peu limitée, ou alors si vous appréciez un peu l'effet des bouquins Chair de poule ou Fais-moi peur. Si vous aimez Mark Flanagan, il faut marquer d'une pierre blanche la sortie d'une prochaine série qu'il organise, qui est l'adaptation d'une œuvre de Edgar Poe, qui est un peu l'année de Edgar Poe, vu qu'il y a plein de films qui sortent sur lui depuis l'année dernière et cette année aussi. Et il va donc adapter The Fall of the House of Usher, qui est une nouvelle, une histoire très connue de Edgar Poe, et dont j'attends avec beaucoup de patience, mais également d'impatience, cette adaptation.
Je rappelle que The Midnight Club de Mike Flanagan, saison 1, et donc dernière saison, ainsi que Wendell et Wilde d'Henry Selick, sont tous deux visibles sur Netflix. Gonna get myself, gonna get myself, gonna get myself, gonna exit. I ain't gonna go blind, but the light which is reflected. She threw
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone, de la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.